Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous avons l'étude numéro 7. Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les deux titres de notre message seront, premièrement, un Dieu qui ne change pas. Deuxièmement, la majesté de Dieu. On nous dit que la Bible est la sainte parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On nous dit que c'est par elle que nous pourrons connaître Dieu et sa volonté pour nos vies. Nous le croyons et nous avons raison, parce que tout cela est vrai. Alors, nous prenons notre Bible et nous nous mettons à la lire avec attention et persévérance, car il s'agit là, pour nous, de quelque chose de sérieux, tant est réel notre désir de connaître Dieu. Mais plus nous avançons dans cette lecture, et plus nous nous sentons troublés, nous sommes peut-être fascinés, mais notre faim n'est pas apaisée. Car cette lecture ne nous aide pas, mais nous laisse souvent désorientés, et à dire vrai, parfois cela nous déprime, si bien que nous finissons par nous demander s'il vaut la peine de continuer de lire cette sainte parole. Qu'est-ce donc qui ne va pas? Voilà en effet ce qui se passe. Voyez-vous, la lecture de la Bible nous entraîne dans ce qui est pour nous un monde souvent nouveau et même inconnu. C'est dans ce monde que nous rencontrons des personnages comme Abraham, Moïse, David et les autres, dans ce monde que nous sommes témoins des relations qui se nouent entre Dieu et ses hommes, et c'est aussi dans ce monde encore que nous entendons les prophètes dénoncer l'idolâtrie et même menacer du jugement divin tous ceux qui se livrent au péché. Et c'est aussi dans ce monde toujours que nous voyons l'homme de Galilée accomplir des miracles, discuter avec les Juifs, mourir pour les pécheurs que nous sommes, ressusciter des morts et monter au ciel. Oui, c'est dans ce monde enfin que des docteurs chrétiens écrivent les lettres que nous pouvons lire encore aujourd'hui et qui étaient destinées à combattre d'étranges erreurs, erreurs qui, pour autant que nous le sachions, n'existent plus de nos jours. Oui, tout cela est extrêmement intéressant, mais semble bien lointain, car tous ces événements appartiennent à ce monde-là et non à celui que nous connaissons aujourd'hui. Si bien que nous avons le sentiment de rester comme étrangers au monde biblique, capables seulement de l'observer de l'extérieur, des spectateurs, voilà en effet ce que nous sommes. Et on peut dire rien d'autre. Car nous pensons, sans l'avouer, c'est vrai tout cela, bien sûr. Il fut une époque où Dieu a fait toutes ces choses et pour les peuples concernés, ce fut sans aucun doute une expérience merveilleuse. Mais, en quoi cela nous concerne-t-il maintenant? À se demander, hein? Et nous, oui, nous ne vivons pas dans le mémande et comment. Donc, comment le récit de ce que Dieu a dit et qu'il a fait au temps biblique, le récit de ses relations avec Abraham, Moïse, David et les autres, pourrait-il nous être d'une aide quelconque à nous qui vivons à l'époque de la conquête de l'espace? Nous arrivons bientôt chez Mars, sans penser déjà aller plus loin. Pourquoi pas? Pourquoi pas jusqu'au ciel? Nous n'arrivons pas à découvrir le lien qui existe entre ces deux mondes, et par conséquent, nous continuons à penser que ce que nous lisons dans la Sainte Bible ne nous concerne en rien du tout. Et lorsque, comme cela arrive bien souvent, la Sainte Bible évoque des perspectives glorieuses qui font vibrer notre cœur, ce sentiment d'exclusion nous accable profondément. Or, le Dieu auquel ils avaient affaire, eh bien, croyez-moi, c'est le même que celui auquel nous avons affaire aujourd'hui. Nous pourrions même dire exactement le même. Il est le même Dieu, car Dieu ne change pas et il ne saurait y avoir en lui la moindre modification. Il existe donc une vérité sur laquelle nous devons nous appuyer pour dissiper cette impression de gouffre infranchissable entre les hommes de la Bible et nous-mêmes. Et cette vérité, c'est l'immutabilité de Dieu, car Dieu est immuable, il ne changera jamais. Oui, Dieu ne change pas, heureusement pour nous. Développons donc cette affirmation. Premièrement, voyez-vous, la vie de Dieu ne change pas. Il est de toute éternité, nous est-il dit dans le psaume 93, verset 2. Il est un roi éternel, Jérémie chapitre 10, verset 10. Il est incorruptible, Romains chapitre 1, verset 23. Oui, qui seul Dieu possède l'immortalité, 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu avais créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es et restes Dieu. Psaume 90, verset 2. La terre et les cieux, dit le psalmiste, périront, mais tu subsisteras. Ils useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Psaume 102, versets 26 à 28. C'est moi, oui moi, qui suis le premier, dit l'Éternel. C'est aussi moi qui suis le dernier, Ésaïe chapitre 48, verset 12. Les choses créées ont un commencement et une fin. Il n'en est pas de même pour leur Créateur. Que répondre à la question que posent, enfin, je pense, tous les enfants de Dieu? Qui a fait Dieu? Simplement que Dieu n'a pas eu besoin d'être fait puisque il a toujours été là. Il existe à jamais et il est toujours le même. Bien sûr que pour nous, ça semble incompréhensible. Et je le reconnais parce que nous sommes limités, très limités, en tout cas moi. Alors Dieu ne vieillit jamais. Il n'y a dans sa vie ni période de croissance, ni période de déclin. Il n'acquiert pas, par exemple, de nouveaux pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il les a toujours eus. Et il ne perdra pas ceux qu'un jour il a possédés, puisque c'est pour l'éternité qu'il les a. Oui. Voyez-vous, il ne connaît ni maturation, ni développement. Il ne devient ni plus fort, ni plus faible, ni plus sage avec le temps. Il ne peut donc devenir meilleur, puisque il est déjà parfait. Oui, je le répète, il est parfait. Et puisqu'il est parfait, il ne peut devenir plus mauvais. Ce qui différencie avant tout, c'est la façon fondamentale. Le créateur de ces créatures, c'est le fait que ces derniers que nous sommes sont par nature susceptibles de changer, alors que Dieu, lui, est immuable. Et il ne peut donc jamais cesser d'être ce qu'il est. Telle est donc la puissance de la vie impérissable de Dieu, selon Hébreux chapitre 7, verset 16. Deuxièmement, la personnalité de Dieu, elle ne change pas. Le surmenage, un choc ou une leucotomie peuvent altérer le caractère d'un homme, mais comment? Mais rien ne peut altérer la personnalité de Dieu. Au cours de sa vie, l'homme peut changer radicalement de goût, d'idées, de tempérament. Un homme aimable et équilibré peut parfois devenir violent et fanatique. Un brave homme peut devenir dur et cynique. Mais voyez-vous, rien de semblable ne peut arriver au Créateur, jamais. Il ne devient jamais moins fidèle, moins miséricordieux, moins juste ou moins bon, car il l'a toujours été. Dieu est le même aujourd'hui que au temps biblique et il restera toujours le même. Donc la nature de Dieu est immuable et c'est pourquoi Jacques, dans un passage de sa lettre qui traite de la bonté et de la sainteté de Dieu, de sa générosité envers les hommes et de son hostilité au péché, parle de Dieu comme de celui chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1 verset 17. Troisièmement, la vérité de Dieu, elle ne change pas non plus. Ésaïe écrivait « Toute chair est comme l'herbe sèche, mais la sainte parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40, verset 6. Et le psalmiste disait lui aussi « Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, tous tes commandements sont la vérité, et tu les as établis pour toujours. » Psaume 119, verset 89, et même le verset 152. Alors je le répète, Psaume 119, 89 et 152. Le mot qui est traduit par vérité, par exemple dans le dernier verset, ce mot implique aussi l'idée de stabilité. Par conséquent, lorsque nous lisons la Bible, nous devons nous souvenir que Dieu s'en tient encore et toujours aux promesses, aux exigences, aux desseins et aux avertissements qu'il communiquait déjà aux croyants de l'époque néo-testamentaire. Il ne s'agit donc pas de reliques d'un âge révolu, mais bien de la révélation éternelle valable de la volonté de Dieu pour son peuple, génération après génération, aussi longtemps que ce monde durera. Comme le disait Jésus-Christ lui-même, l'Écriture sainte ne peut être anéantie. Saint Jean, chapitre 10, verset 35. Rien, absolument rien, ne peut infirmer la vérité éternelle de Dieu. Quatrièmement, les voies de Dieu ne changent pas. Dieu continue d'agir envers les hommes pécheurs comme il le faisait au temps biblique. Il continue toujours d'affirmer sa liberté et sa seigneurie en établissant entre les pécheurs une discrimination, donnant à certains, par exemple, et pas à d'autres. Donc, l'occasion d'entendre l'Évangile, ça peut paraître injuste. Ou si je le répète, il continue, le Seigneur, toujours d'affirmer sa liberté et sa seigneurie en établissant entre les pécheurs une discrimination, et c'est là que ça nous choque un peu, donnant à certains et pas à d'autres l'occasion d'entendre l'Évangile, poussant certains de ceux qui l'ont entendu à la repentance et abandonnant les autres, hélas, à leur incrédulité, car c'est le libre choix. Ils ont librement choisi de refuser. Il fait ainsi comprendre à ses fidèles que rien ne l'oblige à la miséricorde envers qui que ce soit, et que s'ils ont, eux, trouvé la vie, c'est par pure grâce de sa part, sans que leurs propres efforts y soient pour quelque chose. Il continue donc de bénir ceux que son amour a choisi en les maintenant dans l'humilité, afin que toute la gloire puisse lui revenir. Il haït toujours les péchés de son peuple, et pour l'éloigner de toute compromission et de toute désobéissance, il lui envoie, comme autrefois, toutes sortes d'épreuves extérieures et des souffrances intérieures. Il cherche toujours la communion avec son peuple et lui prodigue à la fois joie et douleur afin de le détacher de tout autre objet d'affection que lui-même, car lui seul doit être l'objet de son amour. Oui, c'est vrai. Voyez-vous, les voies humaines, nous le savons très bien, sont pitoyablement inconstantes. Mais celles de Dieu, par contre, elles ne varient jamais. Cinquièmement, les desseins de Dieu ne changent pas. Samuel déclare que celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. Balaam avait dit auparavant la même chose. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, car il ne serait pas Dieu. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notez Nombre, c'est dans l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 23, verset 19. Se repentir, c'est réviser son propre jugement et changer son plan d'action. Or cela, Dieu ne le fait jamais. Il n'a d'ailleurs nul besoin de le faire, car il établit ses plans en fonction de la parfaite connaissance qu'il a de toutes choses et de l'autorité absolue qu'il possède sur elles, qu'elles appartiennent au passé, au présent ou au futur, si bien qu'aucune circonstance, qu'elle soit soudaine ou imprévue, aucun événement inattendu ne peuvent le prendre au dépourvu. Deux choses peuvent donc amener un homme à changer d'avis et à bouleverser ses plans, c'est le manque de prévoyance dans l'élaboration ou l'imprévoyance dans l'exécution. Mais Dieu, parce qu'il est à la fois omniscient et omnipotent, n'a jamais besoin de revenir sur ce qu'il a décrété. Il reste pourtant toute une série de textes qui parlent d'un Dieu qui se repent. Oui, ça nous paraît donc là une contradiction. Notez Genèse chapitre 6, verset 6, 1 Samuel chapitre 15, verset 11 et 2 Samuel chapitre 24, verset 16. Et dans chaque cas, il s'agit d'un revirement dans la façon dont Dieu traite certains hommes en particulier. Et ce revirement de Dieu est toujours consécutif à la réaction de ces hommes au traitement qu'il leur a appliqué. Mais rien ne permet de supposer que cette réaction n'avait pas été prévue ou qu'elle avait pris Dieu par surprise et qu'elle n'était donc pas inscrite dans le plan éternel de Dieu. Le fait que Dieu établisse avec un homme ou une femme des relations d'un type nouveau n'implique nullement que son dessein éternel ait été modifié. Et sixièmement, le Fils de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et il conserve le même pouvoir qu'autrefois. Il est toujours vrai qu'il peut sauver parfaitement ceux qui n'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc nous devons nous approcher de Dieu. Voyez-vous ? Hébreux chapitre 7, verset 25. Il ne change jamais, c'est vrai, et c'est là une puissante consolation pour tout le peuple de Dieu. Si notre Dieu est le même que celui des croyants de l'Ancien Testament, comment expliquer et justifier que nous nous contentions, par exemple, d'une communion avec Dieu et d'une vie chrétienne si pauvre par rapport à la communion et à la vie qui étaient les leurs. Si Dieu est le même, c'est là une interpellation à laquelle aucun de nous ne peut se soustraire. Je répète, si Dieu est le même qu'autrefois. C'est donc là une interpellation à laquelle aucun de nous ne peut se soustraire. Voyez-vous ? Chers auditeurs, quelle est la majesté de Dieu ? Notre mot majesté vient du latin et signifie grandeur. Parler de majesté à propos de quelqu'un, c'est lui reconnaître une certaine grandeur et exprimer le respect que l'on éprouve à son égard. Par exemple, sa majesté, la reine. Dans le contexte biblique, le mot majesté exprime la grandeur de Dieu, notre Créateur et notre Seigneur. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Ton trône est-il dit et établi dès le temps ancien? Psaume 93, verset 1. Je dirais la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. Psaume 145, verset 5. L'apôtre Pierre, évoquant la vision qu'il a eue de la gloire royale du Christ lors de la transfiguration, il a dit, ayant vu sa majesté de nos propres yeux, 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Je répète, Saint Pierre, quand il a évoqué la vision qu'il a eue de la gloire royale du Christ lors de la transfiguration, il a dit, ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Dans l'épître aux Hébreux, c'est le mot majesté qui est employé à deux reprises pour désigner Dieu, le Christ, nous est-il dit, après son ascension, Jésus-Christ s'est assis à la droite de la majesté divine, oui, dans les lieux très hauts, et à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, nous est-il dit, dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, et le chapitre 8, verset 1. Lorsque il se rapporte à Dieu, le mot majesté apparaît toujours comme une proclamation de sa grandeur et une invitation à l'adoration. Cela est également vrai des expressions dans les lieux très hauts et dans les cieux que la Sainte Bible emploie pour décrire la position divine, ce qui ne signifie pas que Dieu est éloigné de nous dans l'espace, mais qu'il nous est bien supérieur en grandeur et qu'il est par conséquent digne, vraiment digne, d'être adoré. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, nous dit le psaume 48, verset 2. L'Éternel est un grand Dieu, oui, il est un grand roi. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. N'oublions pas un peu d'humilité. Psaume 95, verset 3 et verset 6. Voyez-vous, savoir que son Dieu est un grand Dieu stimule puissamment la confiance et l'adoration instinctive que le chrétien lui porte. Mais cette connaissance fait cruellement défaut aux chrétiens aujourd'hui, et c'est ce qui explique en partie la faiblesse de notre foi et la médiocrité de notre adoration. Nous sommes des hommes modernes, et les hommes modernes ont par principe une piètre, très faible opinion de Dieu, et malheureusement une trop haute opinion de l'homme. Quand un homme religieux, eh bien, ne parlons pas de l'homme de la rue, non, prononce par exemple le nom de Dieu, il pense rarement au Dieu plein de majesté. Il est paru récemment un livre intitulé, et cela avec beaucoup d'à-propos, « Votre Dieu est trop petit ». Oh là là, nous sommes dans ce domaine, aux antipodes de nos pères en la foi, même si pour confesser notre foi, nous reprenons leurs propres termes. Lisez un peu Luther, Calvin, Edwards et beaucoup d'autres, et vous ne tarderez pas à vous demander, même si votre doctrine est la même que la leur, si vous avez la moindre connaissance de ce Dieu puissant qu'ils connaissaient eux si intimement. Bien sûr, avec tous nos gadgets d'aujourd'hui, et où chaque semaine il y a un nouveau gadget, eh bien, l'être humain n'a même plus le temps. Peut-être même plus le temps de faire une petite prière dans son cœur. C'est drôlement triste, cela. Actuellement, on insiste énormément sur l'idée d'un Dieu personnel, mais à force d'être dite et répétée, cette vérité finit par donner l'impression que Dieu est une personne du même genre que nous, qu'il est faible, imparfait et méfiant et quelque peu pitoyable. Mais le Dieu de la Sainte Bible est tout à fait différent. Notre vie à nous, elle est bornée, elle est limitée, en tout cas la mienne, et elle est limitée, je le répète, à tout point de vue. Elle est limitée dans l'espace, dans le temps, en connaissance et en puissance. Mais Dieu ne connaît aucune de ses limites. Il est éternel, il est infini et tout-puissant. Lui nous tient dans sa main, alors que nous le tenons jamais dans la nôtre. Comme nous, Dieu est une personne, mais contrairement à nous, il est grand. Bien que la Bible nous rappelle constamment la réalité de la relation personnelle de Dieu avec son peuple, bien qu'elle souligne toujours à nouveau la douceur, la tendresse, la pitié, la patience et l'ardente compassion qu'il lui manifeste, oui, qu'il lui manifeste pour nous. Néanmoins, voyez-vous, elle ne nous laisse jamais perdre de vue sa majesté et la souveraineté illimitée qu'il possède sur toutes ces créatures que nous sommes. Pour illustrer ce que nous venons de dire, ce que je viens de vous dire, eh bien, nous n'aurons pas à chercher au-delà des premiers chapitres du livre de la Genèse. Grâce à la sagesse de l'inspiration divine, nous sommes amenés, dès le tout début du récit biblique, à prendre conscience d'une double vérité. Le Dieu que nous découvrons est à la fois un Dieu personnel et un Dieu majestueux. Nulle part ailleurs dans la Bible, le fait que Dieu soit une personne n'est exprimé avec autant de netteté. Il délibère avec lui-même. « Faisons, dit-il, dans la Genèse chapitre 1, verset 26. Il fait venir les animaux devant Adam pour voir comment celui-ci les appellera. » Genèse chapitre 2, verset 19. Il parcourt le jardin en appelant Adam. Genèse chapitre 3, verset 8. Il pose des questions aux hommes. Genèse chapitre 3, verset 11. Chapitre 4, verset 9. Chapitre 16, verset 8. Il descend du ciel pour savoir ce qu'ils font. Genèse 11, verset 5. Et Genèse 18, verset 20. Il est si affligé de la méchanceté humaine qu'il se repent d'avoir fait l'homme. Genèse 6, verset 6. Si Dieu nous est dépeint de cette façon, c'est afin de nous faire comprendre que le Dieu auquel nous avons affaire n'est pas un simple principe cosmique, impersonnel et indifférent, mais qu'il est une personne vivante, vivante qui pense, qui éprouve des sentiments, qui agit, qui approuve le bien et désapprouve le mal, et qui porte un intérêt sans cesse renouvelé à toutes ses créatures. Mais il ne faudrait pas déduire de ces passages que la connaissance et la puissance de Dieu sont limitées ou qu'il est, en règle générale, absent, totalement absent, de la scène de ce monde et par conséquent, ignorant de ce qu'il s'y passe, sauf lorsque il y descend exceptionnellement pour s'informer. Ces mêmes chapitres écartent toute idée de ce genre en nous révélant de façon tout aussi claire sa grandeur. Voyez-vous, le Dieu de la Genèse, c'est le Dieu créateur qui fait jaillir l'ordre du chaos, qui appelle par sa sainte parole les créatures à la vie, qui a créé Adam de la poussière de la terre et Ève de la côte d'Adam. Genèse chapitre 1 et le chapitre 2. Donc il est le Seigneur de toute sa création. Oui, il maudit le sol et il soumet l'humanité à la mort physique, changeant ainsi l'ordre parfait du monde qui était prévu par lui à l'origine. Genèse chapitre 3, verset 17. Donc il châtie la terre en la faisant disparaître sous les flots, détruisant ainsi toute vie, sauf celle qui subsiste dans l'arche. Genèse, les chapitres 6 jusqu'au chapitre 8. Il confond le langage humain et disperse tous ceux qui bâtissaient Babel. Genèse chapitre 11, verset 7. Oui, il détruit Sodome et Gomorre, apparemment par une éruption volcanique. Genèse chapitre 19, verset 24. C'est à juste titre qu'Abraham le désigne comme celui qui juge toute la terre. Genèse chapitre 18, verset 25. Et qui lui donne le nom de Melchisédek, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Genèse 14, versets 19 à 22. Il est donc présent partout et il voit tout. Le meurtre de Caïn, par exemple. Genèse 4, verset 9. La corruption du genre humain. Genèse 6, verset 5. Le dénuement d'Agar, chapitre 16 de la Genèse, verset 7, laquelle, avec raison, appelle Dieu elle. Elle, ça veut dire roi, un Dieu qui voit, El Shaddai, et son fils Ismaël. Dieu, il entend. Car c'est vrai, Dieu voit et il entend et rien ne lui échappe. Le nom que Dieu se donne personnellement est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et tout ce qu'il fait confirme l'omnipotence que ce Saint-Nom proclame. Il promet donc un fils à Abraham et à sa femme qui ont plus de 90 ans et il réprimande Sarah qui a ri en entendant la promesse, trahissant ainsi son incrédulité, injustifiée comme la suite le prouvera. Oui, y a-t-il rien, vraiment rien, qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse chapitre 18, verset 14. Dieu ne prend d'ailleurs pas le contrôle des événements de façon épisodique seulement, mais il dirige toute l'histoire, voyez-vous? Les prédictions détaillées de la formidable destinée qu'il préparait à la descendance d'Abraham en sont donc une preuve. Notez Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, chapitre 13, verset 14 à 17 et le chapitre 15, verset 13 à 21. Tel apparaît brièvement évoqué la majesté de Dieu dans les premiers chapitres de la Genèse. Comment pouvons-nous nous faire une idée juste de ce qu'est la grandeur de Dieu? Eh bien, pour y parvenir, la Bible nous propose une double démarche. Premièrement, abandonner, oui, abandonnons toute conception de Dieu qui tendrait à le limiter. Et deuxièmement, c'est interdit de notre part, indigne de notre part, de le comparer aux puissants et aux forces qui nous paraissent à nous importantes. Voyez-vous, pour illustrer et expliquer notre premier point, reportons-nous simplement au psaume 139 où le psalmiste médite sur le caractère infini et illimité de la présence, de la connaissance et de la puissance de Dieu ainsi que sur leurs incidences. Les incidences dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Il déclare du reste que l'homme est constamment, oui, il est presque toujours dans la présence de Dieu, il le devrait. L'homme peut donc aussi se couper du reste de ses semblables s'il le veut, mais il ne peut échapper à son Créateur. Tu m'entoures par derrière et par devant. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je montais jusqu'au ciel, si je descendais jusqu'en enfer, ou si je partais jusqu'au bout du monde, je ne pourrais toujours pas échapper à la présence de Dieu. Voici, tu es là. Même les ténèbres qui me dissimulent au regard humain ne peuvent me mettre à l'abri du regard de Dieu. C'est écrit dans le psaume 139, verset 5. Donc rien ne peut l'empêcher d'être présent à mes côtés et rien non plus ne peut l'empêcher de tout savoir de moi. Je ne suis jamais seul et je n'échappe jamais non plus à son attention. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tous mes faits et gestes, tu pénètres de loin ma pensée et tout ce qui se passe dans ma tête. Et tu pénètres toutes mes voies, toutes mes habitudes, mes projets, mes desseins, mes désirs et toute ma vie jusqu'à ce jour. Car la parole n'est pas sur ma langue exprimée ou pensée, que déjà, oui déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est magnifique ça. Psaume 139, verset 1, etc. Je peux donc cacher aux hommes ce que j'ai dans le cœur, tel que mon passé, mes projets d'avenir, mais je ne peux rien cacher à Dieu. Ah non, mes paroles peuvent arriver à tromper mes semblables sur mon compte, mais rien de ce que je pourrais dire ou faire ne réussira à tromper Dieu. Il ne se laisse abuser ni par mes restrictions mentales, ni par mes faux semblants. Il me connaît tel que je suis réellement, mieux même que je ne me connais moi-même. Et comment ? Je m'en suis déjà aperçu. Un Dieu dont je pourrais fuir la présence et le regard scruteur serait une divinité bien petite et insignifiante. Mais le véritable vrai Dieu est grand et redoutable précisément parce qu'il est toujours avec moi et que son regard est toujours posé sur moi. Vivre devient alors quelque chose d'impressionnant lorsque l'on prend conscience que chaque instant de sa vie se déroule sur le regard et dans la présence d'un Créateur omniscient. Ce n'est pas tout. Le Dieu qui voit tout est aussi le Dieu tout-puissant. Et l'étonnante complexité du corps qu'il m'a donné me révèle déjà ce dont est capable sa puissance. Devant cette merveille, la méditation du psalmiste se transforme en adoration. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Psaume 139, verset 14. Voilà donc la première chose à faire pour parvenir à se faire une idée juste de ce que est la grandeur de Dieu, prendre conscience du caractère illimité de sa sagesse, de sa présence et de sa puissance. Nombreux sont les passages de l'Écriture sainte où l'on retrouve absolument le même enseignement, notamment dans les chapitres 38 à 41 du livre de Job. Là, Dieu lui-même reprend les paroles d'Élihu. « Oh, que la majesté de Dieu est redoutable !» Job 37, verset 22. Cela a donné à Job une formidable démonstration de sa sagesse et de son pouvoir tel qu'il s'exerce au sein de la nature, premièrement, et puis après lui, avoir demandé, par exemple, s'il était capable de rivaliser avec lui en majesté, eh bien, Job, au chapitre 40, verset 10, et après avoir entendu l'aveu d'impuissance et d'incapacité de Job, il le convainc qu'il n'a donc point le droit, absolument pas le droit de critiquer la façon dont Dieu en use avec lui. Car c'est là aussi une chose qui dépasse de loin son entendement. Mais nous ne nous entendrons pas plus longtemps dans ce sens, car nous devons avancer sur ce sujet. Alors, pour illustrer et pour expliquer notre second point, eh bien, nous nous reporterons au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, ou Isaïe, selon certaines versions bibliques, si vous prenez la Bible de l'abbé Crampon ou des moines de Maredzou, c'est des magnifiques Bibles. Dieu s'adresse donc là, comme j'ai dit, Isaïe 40, verset 12, à un peuple dont l'état d'esprit ressemble à celui de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est un peuple découragé, apeuré, secrètement désespéré, un peuple contre lequel le flot des événements s'est déchaîné depuis très longtemps. Un peuple, enfin, qui a cessé de croire que la cause du Christ peut encore l'emporter aujourd'hui. Voyons donc comment, par la bouche de son prophète, Dieu s'adresse à ses enfants pour leur faire entendre raison. « Considérez mes œuvres, leur dit-il. Pourriez-vous en accomplir de semblables? Existe-t-il un seul homme qui serait capable de se mesurer à moi? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ésaïe 40, verset 12. Avez-vous assez de sagesse et de force pour faire de telles choses? Moi, oui. Sinon, je n'aurais jamais pu créer ce monde. Et donc, voici votre Dieu. Considérez maintenant les nations. Cela est une chose intéressante. Telles que l'Assyrie, l'Égypte, la Babylone, elles vous intimident, elles vous font peur, tant leur armée et leurs moyens sont supérieurs aux vôtres. Mais regardez à présent quelle est l'attitude de votre Dieu face à ces forces puissantes que vous redoutez tellement. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Oh là là! Elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Ésaïe 40, verset 15. Vous tremblez devant ces nations parce que vous êtes bien plus faibles qu'elles. Mais Dieu est tellement plus grand que ces nations qu'elles ne sont plus rien devant lui. Il est beaucoup plus grand que toutes ces nations. Et il dit, voici donc votre Dieu. Considérez donc à présent le monde, ses dimensions, sa richesse, sa complexité, et pensez aux milliards d'hommes qui le peuplent et à l'immensité du ciel qui le couvre. Quelle chétive, on peut bien dire, créature sommes-nous, vous et moi, en regard de cette planète sur laquelle nous vivons. Il faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas tout. Pour terminer, considérez les étoiles. Contemplez les étoiles seules par une nuit claire, et l'expérience la plus impressionnante et la plus universelle aussi que les hommes puissent faire. Rien donc ne peut susciter en nous une sensation aussi forte d'éloignement et de distance. Oui, rien ne peut nous faire percevoir avec autant d'acuité notre propre petitesse, notre propre insignifiance. Et nous qui vivons au seuil de l'ère spatiale, nous avons la possibilité de compléter cette expérience à la portée de tous en y ajoutant les chiffres que nous fournit la science. Oui, des étoiles par millions et des distances qu'il nous faut désormais mesurer en milliards d'années-lumière. Notre esprit vacille, notre imagination est totalement incapable de concevoir de telles immensités si nous essayons de nous représenter les espaces insondables qui nous entourent. Alors nous voilà pris d'étourdissements et de vertiges. Mais pour Dieu, qu'est-ce que cela? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée, les étoiles? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ésaïe 40, verset 26. C'est Dieu qui fait briller les étoiles, c'est lui qui, au commencement, les lança dans l'espace. Il est leur créateur et leur maître. Elles sont toutes dans sa main, soumises à sa volonté. Car tel est le pouvoir, telle est la majesté de Dieu. Voici votre Dieu. Laissons maintenant Ésaïe, ou Isaïe, appliquer pour nous la doctrine de la majesté de Dieu en nous posant à nous personnellement les trois questions qu'il pose à lui-même au nom de Dieu aux Israélites désabusés et abattus. Premièrement, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Ésaïe 40, verset 25. Et par cette question, eh bien, Dieu, il condamne les idées fausses que nous faisons sur lui. Voyez-vous, vous avez de Dieu une idée beaucoup trop humaine, disait déjà Luther à Erasme. Et c'est là que la plupart d'entre nous s'égarent. Nos pensées concernant Dieu manquent de grandeur. Nous oublions de tenir compte de sa sagesse et de son pouvoir infini dont la réalité est pourtant évidente. Étant nous-mêmes faibles et limités, et je l'ai déjà dit, j'en sais quelque chose, nous imaginons que Dieu l'est aussi dans certains domaines, et nous avons bien du mal à nous persuader du contraire. Notre pensée identifie beaucoup trop Dieu à ce que nous sommes. Corrigez donc votre erreur, dit Dieu, et apprenez à reconnaître la majesté absolue de votre Dieu et Sauveur incomparable. Deuxièmement, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Au travers de cette question, Dieu condamne les idées fausses que nous faisons à propos de notre situation. Dieu ne nous a pas plus abandonné qu'il n'a abandonné Job. Il n'abandonne jamais celui qu'il a choisi d'aimer, de même que le Christ, le bon berger, ne laisse jamais s'égarer ses brebis. C'est donc mentir autant que manquer de respect que d'accuser Dieu d'oublier ou de négliger l'état de son peuple et de ses besoins. Si vous vous êtes résigné à croire que Dieu vous a laissé tomber, demandez-lui la grâce d'avoir honte de vous. Un tel pessimisme fondé sur l'incrédulité déshonore profondément notre grand Dieu et Sauveur. Troisièmement, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ésaïe 40, verset 28. Par cette question, Dieu condamne la difficulté que nous avons à croire en la majesté divine. Ce que Dieu voudrait, c'est nous faire honte jusqu'à ce que nous cessions d'être incrédules. Qu'est-ce qui ne va pas, nous dit-il. Vous êtes-vous imaginé que moi, le Créateur, j'ai vieilli et que je suis maintenant fatigué? Personne ne vous a-t-il jamais dit la vérité à mon sujet? Nous sommes nombreux à mériter ce reproche. Et nous avons tellement de mal à concevoir Dieu comme Dieu, c'est-à-dire comme celui qui domine sur tout, qui voit tout et qui peut tout. Comme nous amoindrissons la majesté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin, chers auditeurs, c'est de nous attendre à l'Éternel en méditant sur sa majesté jusqu'à ce que enfin nos forces soient renouvelées parce que ces choses se trouveront inscrites dans nos cœurs. Alléluia. Nous terminons maintenant par la prière. Seigneur notre Dieu, bénis pour nos âmes la lecture et la méditation de ta sainte parole, qu'elle puisse tomber dans un terrain bien préparé et que pour cet effet, ta grâce agisse dans nos cœurs et les tourne entièrement vers toi. Ô Seigneur, de qui descend tout don parfait, fais-nous donc la grâce que par tes saintes inspirations, nous puissions comprendre ta sainte parole éternelle et la recevoir dans nos cœurs. Oui, nous le désirons. Oh, alléluia. Amen. Amen. Et chers amis, chers auditeurs, demain, la suite, car il y en a beaucoup encore à dire sur Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.